Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
Cléopâtre, Charlotte, Corday, Sarah Bernhardt, elles ont inspiré les peintres, les sculpteurs, les cinéastes. Qui sont ces héroïnes qui peuplent l'imaginaire des artistes? Comment ces artistes ont-ils célébré ou atténué les actions de ces femmes hors normes? Bonjour Alix Paré.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir de nouveau dans Minute Papillon. Vous êtes historienne de l'art et conférencière. Est-ce que ça fait longtemps qu'on représente des femmes qu'on porte au nu, qu'on représente comme des héroïnes comme ça dans l'histoire de l'art?
Alors ça fait longtemps, mais moins longtemps que des hommes.
C'est étonnant, j'ai envie de dire.
Les héroïnes, elles apparaissent dans l'histoire de l'art dans l'Antiquité gréco-romaine.
Oui.
On en trouve des traces sur les vases, par exemple, très anciennement, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai que le concept de héros et les premières images de héros masculins sont beaucoup plus anciennes. Le premier héros masculin de l'histoire, c'est Gilgamesh au Proche-Orient ancien, et c'est 18e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit quand même un écart entre l'arrivée des héroïnes et des héros.
D'ailleurs, le mot héroïne lui-même est apparu tard dans l'histoire.
Il est apparu plus tard et surtout il est plus flou. C'est-à-dire qu'au départ, on crée en grec ancien le terme de héros qui désigne des hommes chefs de guerre chez Homère, qui est donc l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée.
Ah, déjà, on parle de guerre. Un héros, c'est un guerrier en fait.
Oui. Ouais. Et puis chez Hésiode, qui écrit la Théogonie au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est aussi l'idée du demi-dieu. Donc l'homme qui aurait un père qui serait un dieu et une mère qui serait une mortelle ou l'inverse. Et c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus flou chez les femmes, mais on crée quand même après le concept de héroïnée vers le 5e siècle avant Jésus-Christ.
Comment a évolué la représentation des héroïnes dans l'histoire? On ne peut pas résumer évidemment des siècles d'histoire en une phrase, mais est-ce qu'il y a des traits communs, des fils comme ça qu'on peut tirer sur les différentes périodes de notre histoire?
Oui, il y a des va-et-vient, il y a des époques où elles sont célébrées, d'autres où elles sont plus oubliées. Ouais. Ça va dépendre aussi des moments de l'histoire politique, par exemple.
L'Antiquité, par exemple?
Alors, dans l'Antiquité, les rares qui sont célébrées, elles le sont vraiment. Elles sont un peu les exceptions qui confirment la règle. Ça va être Pénélope, ça va être Atalante, qu'on va trouver Atalante. On peut la voir luttant contre un homme, le roi Pélée sur des vases. Donc, on voit la force féminine.
Et c'est qui Atalante, en quelques mots? Parce que Pénélope, on va prendre le temps de raconter.
C'est la plus sportive des personnages de la mythologie grecque. Ouais. C'est la femme qui courait le plus vite au monde. Et elle n'avait pas envie de se marier, donc elle avait décidé qu'elle ne se marierait qu'avec celui qui la battrait à la course. Elle savait qu'elle était imbattable. Et on va lui tendre un piège, en fait, pour qu'elle ralentisse. Et elle va, du coup, devoir se marier.
Donc ça, c'est au moment de l'Antiquité, Pénélope, Atalante. Et après, au Moyen-Âge?
Au Moyen-Âge, on va avoir les figures des saintes qui vont un peu prendre le relais. Jeanne d'Arc, qui va être canonisée beaucoup plus tard. Elle va aussi être la figure de l'héroïne par excellence, la femme guerrière. Et c'est souvent la femme qui va être courageuse, brave et pieuse. Au Moyen-Âge, elle est aussi très pieuse, hein, cette héroïne.
Un peu plus tard dans l'histoire, est-ce qu'elle change encore?
Au 19e, oui, elle change. Par exemple, au 19e, elle est très éthérée. On aime les femmes qui vont se suicider par amour. On aime les jeunes filles vertueuses, les romantiques, exactement.
Alix Paré, vous publiez Héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman, c'est aux éditions Duchesne et c'est un très beau livre, très bien fait, très pédagogue. En même temps, c'est une vraie visite artistique avec des reproductions de très très belle qualité. Et on y découvre Cléopâtre, évidemment. Pourquoi c'est une telle star dans l'histoire tout court et dans l'histoire de l'art? C'est ce qui vous concerne.
Oui, Cléopâtre, ce qui est fascinant, c'est que elle est une star depuis toujours, en fait. C'est-à-dire qu'elle commence à fasciner dès l'Antiquité. Elle est vue par les auteurs romains, par les historiens romains, comme une héroïne très noire. En fait, elle est perçue comme une femme vénéneuse, débauchée, avide de richesses. Et en même temps, les Romains sont fascinés parce qu'elle a été l'amante de Jules César. Et donc, si elle a séduit un homme politique aussi intelligent et puissant, c'est que forcément, c'est aussi une femme exceptionnelle. Et ça met en route la légende noire qui va ensuite fasciner les artistes pendant des siècles et qui vont faire des représentations qui ont beaucoup influencé le cinéma, par exemple.
Cléopâtre, qui est une femme fatale, une femme dangereuse, comme dans Astérix et Obélix. Un classique, bien sûr, Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat avec Monica Bellucci.
Va, numéro bis. Construis ce palais. Tu as 3 mois.
3 mois, mais 3 mois, avec combien de temps de retard? Parce que en trois mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 fois 4, 9. 3 mois, ça sera. Ça ne semble pas très faisable, madame.
Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile.
Une femme puissante et impitoyable, Cléopâtre, jouée par Monica Bellucci dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et dans votre livre, Alix Paré, vous avez choisi un tableau académique d'Alexandre Cabanel qui représente Cléopâtre. Il faut le décrire, ce tableau. Il est magnifique et d'une sensualité dingue.
Oui, alors c'est vrai que c'est un tableau qui est très beau et on l'a choisi parce que c'est un peu un des points de départ pour tout l'imaginaire cinématographique. C'est-à-dire que à partir de ce tableau va être filmé le premier péplum de l'histoire qui dure quelques secondes, qui est un film des Frères Lumière qui remplace en fait Cléopâtre par Néron, Néron empoisonnant des esclaves. Et là, on voit en fait dans mon tableau Cléopâtre qui assiste à la mort de d'esclaves qui ont été empoisonnés pour tester les poisons. Et ensuite, le tableau va servir de source d'inspiration pour les grands péplums de Cécile B2000 ou le péplum avec Elizabeth Taylor, où on voit du coup une femme très sensuelle avec la peau blanche, les cheveux très noirs, une frange qui balaye Cécile. Elle a une couronne d'or en forme d'oiseau et puis elle a une ceinture dorée qui passe entre les seins avec un collier de perles bleues. Donc c'est à la fois très sensuel, très vénéneux, très attirant et en même temps très dangereux comme représentation.
Oui, et les couleurs sont incroyables aussi, très chatoyantes. Enfin, c'est très sensuel.
Oui, oui, et c'est un tableau qui va avoir énormément de succès. Hein. Il va vraiment connaître un très très gros succès à cette époque-là. C'est aussi un tableau qui donne une impression de réalisme parce qu'on a un décor d'un palais avec des colonnes et des hiéroglyphes. Et l'artiste s'était documenté à partir de plans égyptiens. On est en pleine égyptomanie à l'époque. Donc les gens, ils ont l'impression d'y être. Alors qu'en fait, c'est complètement imaginaire. Le décor est réaliste, mais Cléopâtre, elle ne ressemblait certainement pas à ça.
Et ce très beau tableau d'Alexandre Cabanel, on peut le voir au Musée Royal d'Anvers. Petite info comme ça en passant, si vous allez dans le coin et vous allez voir ce tableau magnifique, il est aussi dans votre livre, Alix Paré, héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman aux éditions Duchesne. Donc ça veut dire que les femmes sont représentées, on aime les représenter et elles sont représentées par des hommes comme des plantes vénéneuses.
Oui, surtout au 19e siècle.
Ouais.
Au 17e siècle,
on n'a pas dit oui, c'est 1887.
Voilà. 1887, fin 19e, qui est vraiment l'apogée de la période femme fatale, si on veut. Parce que c'est aussi le moment où on a l'éclosion des premiers mouvements féministes, des premières suffragistes, etc., qui réclament le droit de vote. Donc là, les hommes se sentent ébranlés. Ils sentent la puissance féminine en marche et ils se disent qu'elle est de plus en plus dangereuse. Et on a du coup un décalage entre la femme qu'on essaye de garder à la maison et en même temps la fascination pour la puissance féminine, et ça éclot en art très très fortement.
Et pourtant, un tableau comme ça, c'est pas une critique, enfin nous on le conçoit pas quand on le voit comme une critique, ça donne plutôt envie d'être une femme puissante.
Oui, oui, parce que de nos jours, on est libéré, mais ouais. Pour les hommes et les femmes de la fin du 19e siècle, il y avait un regard fasciné, mais en même temps on se disait, ah bah voilà, forcément une femme de pouvoir, elle est dangereuse.
Ah, et en plus elle monte ses seins, et en plus elle a des beaux seins. Bon, voilà. Vous avez déjà rêvé du couple parfait devant une comédie romantique, et bien en Grèce antique, la comédie romantique des Grecs, c'était l'Odyssée, le couple mythique, les stars, Pénélope et Ulysse.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Et aujourd'hui, vous avez la chance de découvrir comment les femmes sont devenues des héroïnes dans l'art avec mon invité Alix Paré, historienne de l'art et conférencière. On va parler d'une comédie romantique qui a fait vibrer les Grecs. C'est l'Odyssée d'Ulysse. Vous nous plantez le décor un petit peu ?
Alors le décor, c'est un couple qui s'aime, Ulysse et Pénélope, qui
c'est
se
déjà
marient.
Un bon début d'histoire.
C'est un bon début d'histoire.
C'est universel.
Voilà, et qui va avoir un enfant, un petit garçon, Télémaque. Et à peine l'enfant arrive, que Ulysse part à la guerre. Au début, il a pas très envie. Il part à la guerre de Troie. Cette guerre va durer 10 ans, et ensuite il va repartir de Troie pour rentrer chez lui. Il va mettre encore 10 ans à rentrer chez lui. Donc, il va rester 20 ans éloigné de de sa femme et de son fils, qui est excessivement long. Et comme Pénélope était très belle, elle va être courtisée pendant toutes ces années par tous les hommes de Grèce qui veulent se marier avec la reine d'Ithaque. Et elle, elle est sûre que Ulysse va revenir, elle l'attend et elle les repousse. Et elle trouve une astuce, elle dit qu'elle brode, qu'elle tisse un linceul pour son beau-père et qu'elle se mariera quand elle l'aura terminé. Et chaque nuit, elle défait ce qu'elle a fait la veille.
C'est extraordinaire comme, comme histoire. Est-ce que Pénélope a été... l'héroïne de beaucoup de toiles, de beaucoup d'œuvres en histoire de l'art.
Oui, 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 on la voit beaucoup depuis l'Antiquité, où elle est représentée avant d'être sur des toiles, sur des petits objets, en bronze, en or, sur des vases, etc.
Il y a tout un marketing autour de Pénélope, en fait.
Et elle est très, très appréciée parce qu'elle représente pour les Grecs la femme idéale, celle qui est fidèle à son mari, celle qui l'attend, celle qui croit en lui. Et puis elle est rusée, elle est intelligente parce qu'elle trouve cette astuce de défaire la nuit ce qu'elle a fait veille pour ne jamais se marier, etc. Donc elle n'est pas seulement une femme qui attend assise que son mari revienne, mais elle trouve des moyens de repousser les prétendants qui l'intéressent pas. Et après, en peinture, on la voit beaucoup depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Comment les représenter ? Vous nous donnez un exemple dans votre livre « Héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman » aux éditions Duchesne. On voit une œuvre. Il faut nous la décrire. En fait, c'est très...
C'est une enluminure. Oui,
c'est du Moyen-Âge, ça.
C'est fin Moyen-Âge. Ouais. On est fin Moyen-Âge, début Renaissance, mais dans un style assez médiéval.
Tout début XVIe siècle.
Tout début XVIe, oui, c'est ça. Le style est encore assez médiéval pour montrer que Pénélope, elle a intéressé vraiment toutes les époques. On a choisi cette enluminure dans un manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale de France.
Vous nous rappelez ce que c'est, Alix Paré, une enluminure ?
Alors, c'est une peinture sur un livre, sur un parchemin ancien. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une peinture qui la représente assise dans un trône, sous un dais en tissu, pour montrer qu'elle est reine, qu'elle est noble. Elle est représentée beaucoup plus grande que son fils Télémaque, qui semble une sorte d'adulte miniature, pour montrer que c'est elle qui est plus puissante que son fils à ce moment-là. Et dans le fond, on voit son beau-père, Laërte, qui est donc le père d'Ulysse, qui est assis sur un banc. On la voit très souvent représentée assise sur un trône, Pénélope, ou alors tissant cette fameuse ce linceul qu'elle ne termine jamais.
Elle a été récompensée pour sa patience.
Elle est récompensée, oui, parce qu'Ulysse revient et elle le reconnaît. Donc il lui montre une cicatrice. Elle sait que c'est lui.
Et s'aiment jusqu'à la fin des jours.
Et ils s'aiment ensuite. Ils vont ensemble dormir dans le grand lit sous l'olivier. Et puis là, c'est très beau.
Et après, on éteint la lumière et on ne sait pas, ce qui se passe. Elle a éclipsé un peu Ulysse dans l'art, dans l'histoire de l'art.
L'éclipse Ulysse à partir du 19e siècle où on a énormément représenté des femmes et où on va beaucoup avoir de scènes de représentation de Pénélope tissant, brodant ou attendant. Mais sinon, dans l'Antiquité, on représente plus Ulysse pour ses exploits lors de l'Odyssée, sa rencontre avec Circé, etc. Les deux sont très très représentés.
Alors il y a une femme vertueuse, c'est Pénélope, et soudain, on va raconter le destin de Charlotte Corday. Alors ça, c'est vraiment une autre époque.
Complètement.
C'est la Révolution française et c'est un autre personnage. Qui est-elle ?
C'est un personnage politique. C'est une révolutionnaire qui est girondine, c'est-à-dire qu'elle appartient au parti qu'on appellerait modéré de la Révolution française. Un parti qui va, à partir de 1792, souhaiter qu'on ne tue pas le roi, qu'on ne le guillotine pas, mais qu'on mette en place une sorte de monarchie constitutionnelle. Et donc elle va s'opposer, Charlotte Corday, à des révolutionnaires beaucoup plus extrêmes qu'elle, les Montagnards, notamment Marat.
Il y a Robespierre aussi,
Il y a Robespierre, Marat, Danton, tous ceux qu'on connaît beaucoup, Saint-Just, etc. Et elle va décider de manière très organisée, pas du tout sur un coup de tête, d'assassiner Marat. Dans sa baignoire, c'est un homme qui souffre d'eczéma, donc il prend des bains très souvent pour soigner sa peau. Et donc c'est l'occasion pour elle d'entrer chez lui et elle le poignarde avec beaucoup de sang-froid. Et elle le déclare ensuite qu'elle l'a fait pour sauver la Révolution parce qu'elle pensait que c'était mieux de tuer un homme plutôt que de le laisser en tuer 1000 autres. Enfin, voilà, il y a cette idée de faire justice. Mais elle va être guillotinée, elle a seulement 24 ans.
Comment elle est représentée, Charlotte Corday, dans cette œuvre de Paul Baudry, qui est dans votre livre, qui est une œuvre quand même assez connue, 1860, qu'on peut voir au Musée d'Art à Nantes?
Oui, c'est une grande œuvre qui est très bien exposée à Nantes, au Musée des Beaux-Arts. Et c'est une œuvre qui la représente debout, dans un coin de pièce. En fait, elle est juste collée à la fenêtre. Elle vient d'assassiner Marat, qui est de l'autre côté du tableau, avec son couteau encore planté dans la poitrine. Elle a les yeux écarquillés par l'effroi. Elle a les mains encore crispées, parce qu'elle sort tout juste de ce geste d'assassinat. Et cette description, elle correspond en fait à des témoignages de l'époque qui disent avoir vu d'en bas Charlotte Corday... cachée plus ou moins derrière la fenêtre. Donc l'artiste Paul Baudry, bien plus tard, parce que c'est une peinture de 1860, donc on est quand même longtemps après la Révolution, essaye d'avoir un côté un peu documentaire, mais en même temps c'est une documentation qui se veut plutôt pro-girondine, qui est qui est une documentation plus en faveur de Charlotte Corday.
Alors, on quitte Charlotte Corday pour découvrir une photo de Sarah Bernhardt, une photo de 1884. Il faut nous la décrire, cette photo, parce que bon, Sarah Bernhardt, grande artiste, grande comédienne, elle apparaît comment sur cette photo très étonnante?
Donc là, elle apparaît en héroïne de théâtre. Ouais. On a choisi de montrer à la fois des héroïnes réelles, fictives. Donc là, elle incarne une héroïne de théâtre qui est Lady Macbeth, un personnage de Shakespeare, de la pièce Macbeth. Et Lady Macbeth, c'est une reine qui devient folle après avoir poussé son mari au meurtre et qui devient folle une fois qu'elle est reine d'Écosse. Donc là, Sarah Bernhardt, elle est sur un trône en bois qui symbolise ce trône de la reine d'Écosse. Elle est habillée d'une grande robe blanche qui cache ses pieds. On voit quelques orteils dépassés. Elle a les mains crispées sur un genou, la tête enfoncée dans les épaules, les cheveux un peu hirsutes, et elle exprime la folie en fait de son personnage. Donc elle a l'air possédée, quoi.
C'est vrai que c'est une photo magnifique. Quel est l'auteur de cette photo? Parce que c'est une star, lui aussi.
Oui, c'est Nadar. C'est un très grand photographe de la fin du 19e siècle. Il s'appelait Félix Tournachon, mais tout le monde l'appelait Nadar. Il est très connu pour avoir photographié
tout le monde. Ça sonne mieux, c'est
vrai. Oui, c'est plus, ouais. C'est plus court, c'est plus percutant.
Ah, c'était vraiment le photographe des stars.
C'était le photographe de tout le monde, à la fois des hommes politiques, de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Courbet, de tous les peintres. Et c'est lui qui a prêté aussi son atelier, enfin, de photos, son studio de photos aux impressionnistes pour faire leur première exposition. Donc, voilà, c'est un homme très inclus dans la vie artistique de l'époque. C'est aussi un homme qui faisait de la montgolfière et qui a pris la première photo aérienne de l'histoire.
C'est génial. Et cette photo de Sarah Bernhardt, on peut la voir dans quel coin de France?
Alors elle est conservée dans la médiathèque de Charenton, qui a un très beau fond, mais elle est très largement visible en reproduction dans des livres sur Sarah Bernhardt, sur Internet. Ouais.
Elle prône la liberté, elle domine New York. Vous allez découvrir l'histoire de la statue de la liberté. Mais d'ailleurs, pourquoi les allégories sont-elles toujours le plus souvent des femmes? Peut-être parce qu'on est génial.
France Bleu, Minute Papillon.
Ah là là, c'est pas toujours facile d'être une héroïne dans l'histoire de l'art. D'ailleurs, la statue de la liberté a parfois besoin de se confier à sa psy.
Freedom, 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 ta-ta-ta-ta.
Je suis la statue de la liberté, mais je suis tout sauf libre. Ça fait 121 ans que je suis coincée le bras en l'air. Non mais avant c'était sympa comme taf. Mais juste là c'est bon quoi, je suis un symbole mytho. Tout le monde sait qu'il y a une sale ambiance ici.
Avez-vous des amis?
Oui, il y a la petite Marianne là, la française. Celle qui a le bonnet phrygien là. Elle est tout le temps à poil, elle s'en fout, elle se balade les seins en l'air, mais rien à foutre quoi.
Vous aimeriez peut-être vous aussi retirer votre drap et courir nu?
Mais oui. Même pas forcément nu, mais juste changer de drap. Parce que ça fait 121 ans là que j'ai le même drap. Je peux vous dire que ça commence à sentir bizarre.
C'est quand même génial, la statue de la liberté chez le psy vidéo de l'humoriste Swann Périssé. Alix Paris, vous êtes historienne de l'art et conférencière. Vous nous racontez un peu l'histoire de cette statue de la liberté. C'est une petite Française qui a atterri aux États-Unis en fait.
Oui, mais d'ailleurs, on en a une petite réplique pas très loin de chez nous, enfin ici
oui,
à Paris.
C'est vrai.
C'est une statue qui a été offerte par les Français aux Américains à la fin du 19e, en 1886. Et elle a été réalisée par un artiste français, Auguste Bartholdi, et par un autre français très connu, Gustave Eiffel, qui a fait la structure intérieure. Parce qu'il fallait faire une structure très solide qui puisse porter des plaques de cuivre martelées, comme ça, sur une très grande hauteur, parce qu'elle fait 46 mètres de haut.
C'est incroyable. Et d'ailleurs, on dit statue de la liberté, mais je découvre que ce n'est pas son vrai nom.
Et oui, le vrai titre, c'est La liberté éclairant le monde. Et c'est cette idée de...
Ça a plus de gueule quand même.
Ouais, voilà. Elle éclaire le monde parce qu'elle accueille tous les indigents, tous les pauvres des pays du monde entier. Elle est placée à l'entrée de la côte Est à New York et elle accueille les migrants. Donc c'est vraiment cette idée d'éclairer par la grandeur d'âme, le monde, quoi, en accueillant tout le monde. C'est moins simple aujourd'hui, mais en tout cas...
Alors, peut-être qu'elle a un peu mal au bras, mais c'est quand même, c'est quand même une image géniale.
Ouais.
Et d'ailleurs, dans votre livre, Héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman, vous employez le mot d'allégorie. La statue de la liberté, c'est une allégorie.
Voilà.
Ça veut dire quoi, une allégorie?
Une allégorie, c'est la représentation d'une idée sous la forme d'un personnage en histoire de l'art. Et c'est quelque chose qui apparaît très fortement à la Renaissance, où on va redécouvrir des œuvres de l'Antiquité et on va plus ou moins les transformer en idées. Donc on va avoir ce qui est très connu encore de nos jours, hein, l'allégorie de la justice, une femme qui tient une balance, par exemple. Et il va y avoir des traités à cette époque-là, à la Renaissance, où on va expliquer dans des livres comment représenter telle ou telle idée avec une torche, une balance, une épée.
Donc c'est ce qui naît à la Renaissance, c'est ça?
Oui. Alors l'idée de l'allégorie, elle est très répandue en histoire de l'art à partir de la Renaissance. Mmh. C'est vraiment l'Italie du XVIe siècle qui va, et ensuite au XVIIe, XVIIIe, on en a énormément partout.
Et alors pourquoi ce sont essentiellement des femmes Les deux allégories.
Au départ, on a des hommes et des femmes, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes. Et au 19e siècle, on va avoir quasiment que des femmes qui vont être utilisées. On va oublier un peu l'allégorie du temps, qui était un homme ailé, par exemple, ou ce genre de choses. Parce que les femmes sont, à cette époque-là, en fait, exclues de la vie politique. Donc, on va célébrer des héros masculins réels. C'est un peu l'époque des grands hommes, ouais. Le 19e siècle. On a le Panthéon en France, on panthéonise à tout va uniquement des hommes. Et comme on ne peut pas célébrer les femmes qui sont exclues de l'espace politique, et qu'il faut quand même qu'il y ait des modèles un peu d'identification féminine, il faut que les femmes, elles aient l'idée qu'il faut être vertueuse, on va montrer des modèles.
C'est les hommes qui pensent à ça.
Et c'est les hommes qui pensent à ça.
Il faut des modèles pour les femmes.
Ouais. Oui, puis il y a cette idée aussi que la femme, elle est un peu désincarnée, comme elle n'agit plus dans la société. On se met à penser à l'image de la femme comme une image parfaite. On idéalise en fait les femmes parce qu'on ne les connaît pas, on les laisse de côté, donc on ne sait plus vraiment qui elles sont. On les imagine parfaites et elles représentent les idées de la perfection, de la justice, de la liberté, etc.
Et vous racontez leur histoire magnifiquement dans ce livre « Héroïne de Cléopâtre » à Wonder Woman, Alix Paré, c'est aux éditions du Chêne. C'est un très joli livre. À bientôt dans Minute Papillon. Merci
revoir,
beaucoup.
Merci.
D'autres émissions, d'autres invités excellents à découvrir sur francebleu.fr. Vous pouvez aussi nous podcaster. Je vous dis à demain, 14h, vous allez découvrir le destin de Globetrotteuse d'Agatha Christie et l'histoire du foot féminin.